Baba O'Run, c'est un service de livraison de pâtisserie en courant, au départ, à commencer par les Baba O'Run. Ça a démarré parce que je bossais pour une boîte de livraison, que j'aimais bien courir, que je me faisais un peu chier assis à un bureau toute la journée. Et je me suis dit, bah tiens, essaye le soir, le week-end, d'aller livrer tes potes en courant. Puis ça a fait rigoler, ça a fait sourire. Puis après, j'ai commencé à livrer des gens que je connaissais pas. Et de fil en aiguille, j'ai livré autre chose, des Buzz l'éclair. Je suis allé livrer un Paris-Brest de Paris à Brest. À vélo et moi lors du premier cross je me suis lamentablement loupé puisque j'étais en train de faire pipi au moment du départ, okay. Et donc en fait je suis parti 200 mètres derrière tout le monde, donc ça s'est plutôt mal passé et c'est là que je me suis dit en fait va falloir se mettre vraiment à courir, ouais. Pour l'année prochaine arriver en forme. C'était marrant parce que en plus moi comme je suis un livreur un peu particulier, c'est pas rare que les gens ils me disent bah, tu vas bien rester boire un café ou tu vas prendre un verre d'eau et tout. Du coup, je me retrouvais posé chez les gens à boire un verre d'eau, à discuter. Parfois, j'ai dîné. Une fois, je suis arrivé chez des gens, j'avais eu tellement chaud. Non, il avait plu. Ils m'ont dit, bah, prends une douche. Donc, j'ai pris une douche. Et donc, en fait, tu fais des trucs.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Jean-Baptiste Martinon. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Merci de m'accueillir chez toi, je suis hyper content de faire ta connaissance en présentiel. C'est vrai que ceux qui m'écoutent savent que la plupart des épisodes sont enregistrés à distance du fait des conditions Covid. Et donc je suis très content de pouvoir te rencontrer en présentiel, avec un super rhum d'ailleurs servi sur la table pour ceux qui nous écoutent.
En direct de Guadeloupe.
En direct de Guadeloupe. Et donc pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que je te propose c'est que tu commences par te présenter s'il te plaît.
Alors je m'appelle Jean-Baptiste Martinon, je suis parisien d'adoption, j'ai 25 ans et voilà, je suis un grand passionné de tous les sujets que tu as traités dans ton podcast jusqu'alors et j'en ai pas encore écouté assez, mais donc voilà, running, seulement running, des petites aventures, des voyages en tout genre le moins préparé possible, j'ai 3 frères et sœurs et je suis fils de militaire, ce qui a donné accès à un passage en lycée militaire et surtout okay. À bouger un peu plus jeune. Donc, fait découvrir pas mal d'endroits en France.
Calon. Et qu'est-ce qui fait qu'on se rend compte aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que tu as appelé ce projet-là Baba O'Run, du coup ?
Ça a démarré il y a un an et demi, projet Baba O'Run, et c'était un peu un mix de tout ce que j'aimais et ce que j'aime encore d'ailleurs à ce moment-là. Baba O'Run, c'est un service de livraison de pâtisserie en courant, au départ, à commencer okay. Par les Baba O'Run.
Ouais.
Ça a démarré parce que je bossais pour une boîte de livraison, que j'aimais bien courir, que je me faisais un peu chier assis à un bureau toute la journée. Et je me suis dit, bah tiens, essaye le soir, le week-end, d'aller livrer tes potes en courant. Puis ça a fait rigoler, ça a fait sourire. Puis après, j'ai commencé à livrer des gens que je connaissais pas. Et de fil en aiguille, j'ai livré autre chose, des Buzz l'éclair. Je suis allé livrer un Paris-Brest de Paris à Brest à vélo. Et voilà, ce truc-là me faisait rigoler parce que c'était assez léger. C'était un peu prendre le contre-pied de la Startup Nation avec une boîte qui sert à rien, mais qui est assumée. Et en fait, c'est beaucoup plus du côté du divertissement pour les gens qui suivent. Et maintenant, ça se oriente beaucoup plus vers une agence de com, avec à chaque fois des petites aventures qui sont pensées pour des marques, avec des idées un peu originales. Et d'associer la rencontre de l'humain, le sport et la gastronomie, voilà, dans des petites aventures.
Et toi tu viens d'où du coup ? C'est quoi ton parcours ?
Scolaire, académique ?
Ouais, tout, même d'origine familiale.
Ouais, ça remonte loin. Nous, toute la famille vient, enfin, de côté de ma mère, on vient tous de Sologne. On se considère de Sologne. On est des cousins éloignés de Michel Delpech, tu vois. Donc, okay. Ma famille habite vraiment dans le Loir-et-Cher. Et ces gens-là ne font vraiment pas de manière. et donc, on vient de là-bas. Après, on a un peu bougé en France plus jeune. Après, on habitait à Paris assez vite. On était en lycée près de Bastille avec mes frères et sœurs. Avec mon frère, on s'est dit que c'était quand même un peu une vie bizarre d'être en lycée à Paris. Enfin, c'est une vie un peu monotone. Et donc, on est allé visiter le lycée militaire de Saint-Cyr, qui est près okay. De Versailles. Et on a été complètement emballé par l'endroit. C'est un endroit où il y a tous les terrains de sport, piscine, gymnase et tout, avec un grand parc et puis toutes les chambres avec les copains pas loin. Et donc on a passé le concours, on a été pris, on est rentré en seconde là-bas. Et c'était trois merveilleuses années près de Versailles, du coup, dans ce lycée, qui est un lycée normal, en fait, c'est un lycée de militaire, il n'a que l'encadrement le soir et le matin, et plus de sport. Donc tout va bien, et la journée, c'est des cours normaux. Voilà. Donc on a fait trois ans là-bas.
Plus de sport, c'est quoi, ça représente quoi en termes de rythme dans la semaine?
Bah, ceux qui veulent vraiment faire du sport, comme c'était notre cas avec nos copains, on faisait à peu près 10 heures de sport par semaine. T'as les 3 heures, je crois, de sport normaux. Normal, je vous dis, qui sont donnés par l'éducation nationale. Après, tu as l'option sport pour le bac, et après, tu as le sport le mardi soir, plus le sport mercredi après-midi. Donc, ça faisait à peu près ça. Et surtout, dès qu'on n'avait rien à faire, on allait faire un rugby sur le terrain. Donc, et c'est surtout là-bas, en fait, je parle beaucoup du lycée militaire parce que c'est là-bas que j'ai découvert la course à pied. Là-bas, le cross de début d'année, c'est un peu là où on se jauge, c'est l'occasion de briller. Et moi, lors du premier cross, je me suis lamentablement loupé, puisque j'étais en train de faire pipi au moment du départ.
Okay.
Et donc, en fait, je suis parti 200 mètres derrière tout le monde. Donc, ça s'est plutôt mal passé. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il va falloir se mettre vraiment à courir,
ouais,
pour l'année prochaine arriver en forme.
Okay.
Et donc, voilà, et j'étais dans l'équipe de cross du lycée. On a fait pas mal de championnats et c'était vraiment. En fait, c'est l'esprit. Comment ça s'appelle ce. C'est le cercle des poètes disparus, le livre, le film
de... ouais.
en internat.
Ouais.
Et l'esprit, c'est vraiment ça. Il y a une cohésion qui se crée. Et donc ça reste des très bons souvenirs. Et les copains du lycée, on les voit encore beaucoup. Après, je suis parti en prépa parce que je pense que je voulais garder un peu toutes les portes ouvertes et que j'avais jamais trop réfléchi exactement à ce que je voulais faire. Je pense qu'avec le recul, j'aurais pu me pencher un peu plus sur le côté journalistique, reporter. Mais bon, c'est pas trop tard de toute façon, parce que je m'oriente un peu vers ça aujourd'hui. Donc je suis tombé en prépa à Saint-Jean-de-Passy dans le 16e grâce au système APB, puis c'était dans mes choix, j'étais très content. C'est une super prépa en 2 ans, et après j'ai intégré l'ESSEC, donc qui est une école de commerce à Cergy.
Okay.
Un master en management, encore une fois très généraliste, mais qui donne l'opportunité de faire des stages. Il y a 18 mois de stage à faire, donc on côtoie quand même pas mal le monde de l'entreprise. Et surtout, il faut passer un nombre de mois à l'étranger. Moi, je suis allé en Jamaïque, au Vietnam et aux États-Unis. J'étais très content parce que j'avais jamais voyagé hors d'Europe. Et donc là, j'ai découvert des univers complètement différents. Donc, j'étais ravi.
Qu'est-ce que tu en tires des conclusions comme expérience quand tu découvres ça, pardon pour le mot, tardivement, tu vois, qu'est-ce que tu en tires comme ressenti en rentrant?
De voyager? Alors déjà, la conclusion, c'est souvent qu'on est quand même très bien en France. Moi, j'adore voyager et j'adore revenir en France. Et puis que c'est très enrichissant d'avoir la chance de partir à l'étranger. Et je pense que tout dépend du mode de voyage. Si c'est partir 3 jours à New York et faire les 3 points d'éléments touristiques, c'est une mode de voyage. Moi, c'est pas mon mode. Moi, je préfère passer un peu plus de temps. Et en fait, je trouve que mon mode de voyager, c'est de parler avec les gens, avec les locaux. Aux États-Unis, on a fait toute la côte ouest sur une Rosalie, une voiturette à pédales, et on dormait chez les gens le soir ou dans des campings. Donc, on a vraiment vécu avec les Américains. On a vu que des Américains pendant 3 mois et demi. Au Vietnam, on était dans une ville pendant 1 mois, puis le tour du Vietnam en moto. Donc, c'est ça, c'est s'intégrer, s'imprégner de la vie locale. Tu vois, là, j'étais en Guadeloupe la semaine dernière pour des vacances, et en fait, j'ai décidé de prolonger pour faire un tour de la Guadeloupe, enfin de la Grande Terre, à vélo. Et en fait, j'en repars bien plus grandi en termes de rencontres par mon tour à vélo que par mes vacances, qui étaient des vacances au soleil pour le plaisir, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je vois le voyage et que c'est une vraie chance.
Et tu fais ça, donc ESSEC, ça dure 4 ans, si je ne me trompe pas, grosso modo?
Entre 3 et 5. En fait, les gens font un peu comme moi, j'ai mis 4 ans. Ouais.
Ok. Et tu sors de là, et c'est là que tu rentres dans cette fameuse boîte de livraison, c'est ça?
Je bois un peu de rhum. Petite pause. Ça, c'est bien parce que podcast, au moins, ça passe pas à l'image et tu peux le faire passer.
Exactement.
Je crois qu'à la télé, t'as pas le droit de mettre de l'alcool. Donc, je suis sorti. En fait, j'avais contacté un ancien ESSEC qui a monté un groupe de restauration qui s'appelle Farago, qui s'appelle maintenant Groupe Panorama. Restauration traditionnelle, donc 3 restos à Paris. Et ça m'attirait beaucoup à ce moment-là. Ça m'attire toujours, d'ailleurs. Et il se trouve qu'ils ouvraient une branche qui s'appelait Dark Kitchen, une branche du groupe, et qui sont des restaurants fantômes, uniquement dédié aux plateformes de livraison. Donc, en fait, tu ne peux jamais aller dans ces restaurants-là. C'est le livreur Uber Eats ou Deliveroo qui te l'apporte. Et j'étais en charge de développer cette partie-là sur la fin. Donc trouver les nouvelles cuisines, ouvrir les nouvelles cuisines, et j'ai ouvert pour ça une pizzeria à Saint-Ouen qui s'appelait Big Boy Pizza.
Excellent.
Et c'était beaucoup de process, beaucoup d'efficacité, et en fait au fur et à mesure que j'étais là-dedans, je me rends compte que quand je perdais ce qui me plaisait dans la gastronomie et dans le c'est le sens de l'accueil, de rencontrer les gens, et là on s'est trouvé dans un local avec un néon blanc de 11h à 21h à calculer uniquement des ratios pour que ça coûte le moins cher possible et que ça parte le plus vite possible. Et donc je me suis dit, bon, en fait, c'est pas tout à fait ce que je recherche. Et surtout, je pense que ça, c'est vraiment pas, pour moi, c'est pas l'avenir. Je pense que les gens vont s'en sortir avec ça, mais en tout cas, c'est pas ce que je veux voir comme restauration. Et surtout, ça encourage les gens à rester chez eux ou à rester à leur bureau jusqu'à 22h et à commander. Et je trouve que c'est trop dommage, alors que on est quand même, pour avoir voyagé un peu, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast, on sait qu'en France, et notamment à Paris, on a la chance, tu marches 5 minutes et tu peux trouver n'importe quoi de bon à manger si tu veux commander quelque chose. Quoi. Donc voilà, et je me suis dit, je sens que je veux bouger. J'ai eu cette idée de Baba O'Run qui était au début vraiment... c'était une petite blague, quoi, mais je sentais qu'il y avait plein de choses derrière qui me plaisaient. Ça me permettrait de rencontrer plein de personnes, d'aller notamment, c'est marrant, mais aller chez les gens à Paris en leur livrant. Tu vas jamais chez des inconnus à Paris, à part le livreur... Amazon ou je sais pas, mais
ouais.
Et donc c'était marrant de, parce que en plus moi comme je suis un livreur un peu particulier, c'est pas rare que les gens ils me disent tu vas bien rester boire un café ou tu vas prendre un verre d'eau et tout. Du coup je me retrouvais posé chez les gens à boire un verre d'eau, à discuter. Parfois j'ai dîné, une fois je suis arrivé chez des gens, j'avais eu tellement chaud, non il avait plu, ils m'ont dit prends une douche, donc j'ai pris une douche. Et donc en fait tu fais des trucs complètement dingues, quoi, qui sont essayés, et ça pourrait être chez moi, chez mon voisin, donc c'est assez marrant.
Et cette idée de Baba O'Run, tu dis un an et demi, ça existe grosso modo?
Ouais, c'était en mars 2019,
okay.
Donc bientôt deux ans.
Bientôt deux ans du coup, ouais. Ouais. Et c'est quoi la genèse de l'idée? Tu avais eu cette idée, tu parles depuis tout à l'heure de ce Baba O'Run, mais comment est-ce qu'elle germe cette idée?
En fait, honnêtement, j'ai des idées. Je dirais que c'est un peu ma passion d'avoir des idées de petites aventures à faire. La Rosalie aux États-Unis, c'était avec des copains, c'était toujours dit, tiens, c'est quand même marrant ces trucs que tu loues que pour une demi-heure en bord de mer. En fait, nous, il faudrait qu'on parte vraiment longtemps dessus et qu'on invite des gens, donc on l'a fait. J'avais une idée de monter une association de Solex, parce que j'adore les Solex. À l'ESSEC, j'ai monté une asso. Et en fait, ce que j'adore, c'est lancer des projets. Et après, si ça marche pas, tant pis, on n'avance pas. Avec mon frère, on a une idée de monter une boîte. D'ailleurs, il y a un copyright dessus, hein, ne la shippez pas. C'est de monter une boîte qui s'appelle Négociator. Et en fait, c'est d'avoir un pool de négociants pour toi, pour tout ce que tu veux acheter. Tu veux acheter une voiture, tu dis à un négociateur, voilà, je veux acheter cette voiture, j'ai ce budget, si vous arrivez à négocier, vous prenez une part de la réduc. Enfin, on a tout le temps des idées comme ça, un peu vraiment dans tous les sens. Et là, c'était une idée parmi d'autres qui correspondait bien, et sauf que comme j'ai pris plaisir à le faire et que ça a été un peu suivi, et en fait, ça a été un peu propulsé aussi par quelques articles... de presse et tout ça, et en fait ça s'est lancé comme ça, et puis surtout ça se fait pas tout seul, j'ai mis de l'énergie là-dedans pour faire des histoires qui font sourire, pour faire plaisir aux gens surtout, et faire quelque chose qui me ressemble entièrement, ce qui fait que je peux le faire longtemps.
Et comment tu priorises dans les idées, parce que tu dis que ça il y en a par multiples, celles que tu veux vraiment intensément faire, toi, comment t'as fait pour dire que celle-là je vais y mettre l'énergie et pas les 14 autres que t'as eu à ce moment-là?
Je dirais que c'est une question de timing, et puis c'est aussi le choix là un peu de se dire en fait pour que quelque chose marche vraiment faut y mettre du temps, de l'énergie. On peut pas faire en deux semaines un projet qui va cartonner, qui va permettre d'en vivre et tout ça. Donc je sais que j'ai eu des moments un peu plus durs là avec Baba O'Run depuis par exemple les 6 derniers mois à cause de ce qui se passe, et il y a des choses qui sont un peu démoralisantes, mais je sais aussi que si j'arrive à sortir de la crise avec un projet qui me tient toujours à cœur et dans lequel je suis toujours investi, c'est que quelque part c'est un bon projet pour moi, et surtout au fur et à mesure les connexions se font, les projets ils peuvent être restés endormis pendant 6 mois et ressurgir après, tu vois, quand j'ai fait une traversée de la France avec City Scoot, je leur avais parlé en septembre et finalement je suis parti en juin, donc à l'échelle individuelle c'est long, un an. Et j'aurais très bien pu dire non, en fait tant pis, c'est mort, ça se fera pas, et j'étais convaincu que ça pourrait se faire mais que c'était pas le moment, et j'ai plein de projets comme ça en tête, tu vois là t'as la BD Astérix et Obélix, le Tour de Gaulle, et j'aimerais beaucoup faire le Tour de Gaulle moi-même comme ils l'ont fait eux, et si possible en calèche, et ça vraiment je sais que c'est pas le bon timing pour le faire, Mais par contre, je l'ai en tête, je le garde et j'espère pouvoir le faire dès que le ciel se sera éclairci. Donc en fait, c'est maintenir le cap, c'est ça. Et là-dessus, ce projet-là, tout est une question de moment dans ta vie. Moi, là, je sais que je veux beaucoup bouger. Je veux continuer à rencontrer des gens parce que j'ai l'énergie pour ça et que j'adore ça. Et après, une fois que je voudrais avoir une vie plus sédentaire, peut-être plus confortable aussi, parce que là, c'est pas la vie la plus confortable. Hein. En sortant de l'ESSEC, je pourrais faire comme la plupart de mes copains. C'est confortable mais moins excitant, je trouve. Et donc, je pourrais avoir acheté mon appart, je pourrais aller au resto à chaque repas. Mais en fait, ça m'intéresse pas, déjà. Et puis surtout, ce qui est précieux et qui s'achète pas, c'est de se lever le matin en se disant « Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?» Là, aujourd'hui, ce midi, je fais un podcast. Après, je vais peut-être aller courir parce qu'il y a un petit rayon de soleil. Et après, je vais écrire un projet. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, ça me plaît.
Et typiquement, on revient sur un sujet que tu as très vite mentionné, mais traverser la France en city scoot, ça, c'est quelle année ? On enregistre aujourd'hui en janvier 2021.
C'était en juin 2020.
Ok. En plein milieu du projet Baba Run, du coup, tu t'es dit, pause, je vais faire ça.
Ah non, mais c'est dans le cadre de Baba Run, en fait. Okay. C'est une des aventures. Là, l'idée, c'était goûter... un dessert par jour auprès d'un artisan réputé sur la route, okay, entre Paris et Biarritz. Et donc, je m'arrêtais tous les jours, rencontrais un artisan qui avait la réputation pour le dessert local. Il me faisait goûter ça, j'en embarquais un avec moi. Et le soir, je m'invitais chez les gens sur la route pour recharger mon scoot et partager un petit bout de dessert.
J'adore. Attends.
Et je sais que tu es venu en city scoot, donc tu vois un peu, tu vois, c'est pas rapide. Hein,
ouais,
mais
ouais,
c'est très agréable parce que c'est silencieux et c'est, voilà, c'est un mode de voyage que... qui n'existe pas ou peu, je trouve.
Ouais.
Et honnêtement, pour ceux qui sont tentés, je vous conseille de prendre un city scoot. Moi, mon voyage, là, city scoot, quand j'ai pris, je crois que ça devait coûter 2 300 €, la facture. Bon, c'était en partenariat avec eux. Mais enfin, tout ça pour dire, si vous voulez prendre un city scoot, allez-y, quoi. Et aller dans la forêt et rouler dans la forêt en scooter électrique, c'est magique. Parce que t'entends rien, enfin, il n'y a pas de bruit, ça vibre pas. C'était des moments magiques.
Tiens, on revient sur la jeunesse du projet. Tu dis mars 2019.
Ouais.
Au début, c'est en parallèle de ton ancien travail ou est-ce que c'est déjà tout de suite à fond et que ça 100% de la journée ?
Non, c'est en parallèle au début. Alors, je sais plus qui m'avait dit, c'était un entrepreneur, mais je me souviens plus qui m'en a parlé et qui m'avait dit c'est une grosse connerie de quitter son taf directement sans avoir aucune idée ou juste un début d'idée de ce qu'on veut faire après et de se retrouver le lendemain. Bon, moi j'ai quitté mon taf, je suis à mon bureau et là maintenant c'est le vide, c'est la page blanche, ça fait peur. En fait, il n'y a rien qui empêche le soir, le week-end, ou même, je crois, pour certains, parfois pendant les heures de taf, de commencer à lancer de nouveaux projets. Et donc, moi, l'idée, c'était ça, c'était de me dire, là, je le fais en parallèle. Au début, j'allais livrer le midi et le soir, puis le week-end, puis après, avec Farago, j'étais quasiment à temps plein chez eux, mais j'étais à mon compte, parce que j'avais d'autres clients aussi, j'étais en gros... j'aime pas ce mot-là, mais consultant, enfin, c'était un peu couteau suisse, on va dire, plutôt. Auto-entrepreneur, couteau suisse. Et donc, j'ai pu réduire après la voilure de jours de travail et je suis passé, au début, j'étais 4 jours et demi par semaine. Après, je suis passé à 2 jours. Après, je suis passé à 1 jour et demi jusqu'en septembre 2019. Et après, j'ai dit, là, faut que je sois à temps plein sur mon projet. Donc, ouais, ça s'est fait vraiment progressivement.
Et au début, donc, t'es auto-entrepreneur.
Ouais.
C'est quoi ? Tu factures la livraison ? Comment tu en vis du coup ? Comment tu fais naître le projet ?
Alors, j'en vis surtout de. En fait, c'est surtout des partenariats avec des marques et avec des boîtes qui vont dire voilà, on veut livrer nos 100 employés pour. Pour la Chandeleur, pour la Fête des Mères. Ou bien, tu vois, City Scoot, c'était une opération de communication. C'est surtout ça qui me fait vivre aujourd'hui, c'est les opérations de communication qu'on imagine avec des marques et qu'on incarne par les petites aventures. Après, les livraisons en courant, au début, c'était clairement du bricolage. Et tu vois, je fixais même pas de prix. Les gens payaient un peu ce qu'ils voulaient. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas pour les livraisons en B2C. Mais j'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Enfin, j'en fais même quasiment plus. J'en fais que ponctuellement pour maintenir un peu la flamme allumée. Mais au début, c'était du test. C'était de voir combien les gens étaient prêts à payer pour se faire livrer un Baba Aurum en courant. La conclusion, c'est que c'est pas un business rentable, que tu t'épuises et qu'à la fin de la journée, tu as livré 20 Baba Aurum et que tu es épuisé et que tu as gagné 28,50 €. Donc non, il n'y a pas de business model, mais par contre, c'est marrant justement, les gens commandent aussi parce que ça paraît absurde et ils veulent savoir pourquoi. Tout. Donc, comme je ne fixais pas de prix, les gens donnaient environ, je crois que la moyenne c'était 10 € ou 9,50 €, tu vois, pour le Baba et la livraison. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer une livraison 5 € au lieu de 2 € et c'est à la fois cher et pas cher. C'est, c'est trop peu cher. Et donc voilà, moi en fait j'ai fait ça parce que t'as été scout ou pas?
Ouais.
J'ai fait ça parce que je me rappelais des ventes de gâteaux aux scouts quand on voulait financer nos camps. Et je trouvais ça délire d'avoir la petite mamie qui vient à la fin de la messe et tout et qui te dit c'est combien votre gâteau au chocolat là? Toi, il t'a coûté 2,28€ à faire. Et tu dis oh madame, vous savez, vous pouvez donner le prix que vous voulez. Et à chaque fois, t'as 20€ ou 30€. Et donc, il y a un côté un peu magique des gens qui participent à ton projet en fait. Donc voilà, j'ai testé comme ça.
Et alors, quand tu dis que tu fais une livraison, moi, ça, juste parenthèse pour visualiser comment ça te donne, comment tu cours avec un Baba O'Rum?
Alors, j'ai le petit sac qui est là,
okay,
que les gens ne peuvent pas voir du coup, mais qui est un sac isotherme à fond plat avec une poignée.
Okay.
Et donc, je mets les pâtisseries dedans et je tiens ce sac à la main. Et en fait, il se trouve que le corps humain est très bien fait et stabilise tout seul ce qui se passe dans ta main. Tu peux faire le test toi-même en courant, tu verras que tu peux lire un message sur ton portable en courant. Alors qu'a priori, tu pourrais penser que ça va bouger.
Ouais.
Mais non, le bras stabilise.
Et donc, un peu comme la tête de la poule. Hein, qui...
Voilà, voilà c'est... je me suis inspiré de la tête de la poule. Et donc, c'est un peu ça, tu vois. Un peu comme, je lisais le bouquin de Guirec Soudé là, sur sa traversée de l'Atlantique. Et il disait que la poule se stabilise à chaque vague. Et donc, en fait, t'as toujours la tête au même endroit. Et bah là, mon baba, il est toujours au même endroit.
Ah, c'est excellent. Et tu les cales quoi, au centre où il y a une espèce, t'as une structure cartonnée en bas pour pas qu'ils bougent ou...
Bah non, c'est fond plat et la boîte en elle-même de la pâtisserie fait que ça bouge pas. Et j'ai jamais abîmé une pâtisserie. Elles sont toujours arrivées en bon état alors qu'il y avait des babas avec chantilly et tout. La seule qui est arrivée en très mauvais état, c'était le Mont Blanc qu'on est allé livrer au sommet du Mont Blanc avec mon frère. Et là, il était dans un sale état.
C'est là,
il a eu chaud.
Qui commande une pâtisserie de Mont Blanc en haut du Mont Blanc?
Alors là, c'était l'idée, c'était nous qui avions envie de le faire. Mais là, c'était financé par un pâtissier qui s'appelle Rodolphe Landemaine et qui a créé un œuf végétal qui est. Donc en fait le blanc d'œuf c'est très pratique en pâtisserie pour faire plein de choses mais du coup c'est pas vegan et donc lui il a créé les mêmes propriétés de texture et tout ça pour permettre aux gens de faire des pâtisseries vegan et donc lui il nous a filé un de ses œufs végétaux qui est sous forme d'une petite bouteille que j'ai là qui s'appelle Yumgo et il m'a dit bah voilà vous me l'emmenez au sommet du Mont Blanc ça me fait délirer vous me prenez une photo et je vous finance le trip donc on était contents.
Ah, c'est excellent. Parce que quand tu dis que c'est un blanc d'œuf, c'est un œuf complet ou c'est juste le blanc d'œuf?
Il fait blanc et jaune, c'est pareil. Okay. Ça dépend de ce que tu veux faire, mais en fait, ça va permettre de faire. Tu vois, tu peux faire une mousse au chocolat vegan, ce qui est très compliqué sinon.
Donc, ouais,
il a créé ça et là, c'est en train de bien se lancer un peu partout dans le monde d'ailleurs, parce que le véganisme avance.
Non, c'est quand même impressionnant de se dire que tous ces projets-là, ils ont une dimension sportive, du coup. Tout en gardant une dimension culinaire parce que tu me parlais de Paris-Brest tout à l'heure, si on peut prendre celui-là aussi comme exemple quelqu'un t'as livré ça à quelqu'un ou c'était aussi pour
Non, alors là j'y suis allé c'était un an avant, juillet 2019 et en fait je voulais faire ça parce que le Paris-Brest déjà j'ai creusé un peu l'histoire et il se trouve que ça a été créé en l'honneur d'une course cycliste.
Okay.
Qui s'appelle le Paris-Brest-Paris, qui existe toujours, qui est tous les 4 ans, et qui est, le but c'est juste de faire l'aller-retour Paris-Brest-Paris le plus vite possible, et les premiers qui le font, alors je ne saurais plus te dire en combien de temps ils le font, je crois que ça doit être en 40 heures à peu près, c'est 1200 km, et ils ne dorment pas du tout, non-stop, et je connais un gars qui l'a fait je crois en 50 heures, il l'a fait en moins de 50 heures pour ses 50 ans, il est arrivé 20 secondes après, avant les 50 heures, et il a dormi 20 minutes en tout. Sur 50 heures en pédalant à 30 km de moyenne. Enfin, voilà, donc c'est une course de fou. Et le Paris-Brest a été créé par un pâtissier qui s'appelle Durand, a priori. Mais je crois que c'est Maison Lafitte, mais je ne suis pas sûr. Qui s'est dit, tiens, c'est marrant, chaque année, il y a une course qui ramène du monde. Je vais en profiter pour vendre mes petits gâteaux en forme de roue de vélo. Et donc, il a créé le Paris-Brest, qui n'a rien à voir en termes d'ingrédients avec ce qu'on peut trouver sur le chemin. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, moi, je vais faire mon petit Paris-Brest à moi. Et je suis parti avec deux Paris-Brest dans ma sacoche isotherme et je suis allé jusqu'à Brest en 4 jours. Moi, pour le coup, je suis allé un peu moins vite et je dormais les soirs chez l'habitant. Je mettais mes Paris-Brest au congélo la nuit et le lendemain, je repartais. Et en arrivant, je l'ai offert au maire de Brest.
Excellent.
Donc, je suis arrivé à la mairie, j'ai fait bonjour, j'ai un cadeau pour monsieur le maire. On m'a dit monsieur.
Ça vient de Paris.
Je dis c'est pour sceller l'amitié Paris-Brest. Et le maire n'était pas là, donc j'ai parlé à, je ne sais plus comment il s'appelle, mais à l'adjoint au sport. Il était ravi, on est allé dans la mairie, on a pris la photo. Donc ça, c'est marrant.
C'est canon. Et alors, tu relates tout ça sur les réseaux sociaux, en particulier, je crois, sur la page Insta.
Ouais, sur la page Baba O'Run. Sur Facebook aussi un peu, mais je trouve que c'est moins interactif. C'est moins pratique aussi comme plateforme. Et après, en fonction des aventures, je fais des films aussi. La France des desserts, il y a un film de 23 minutes. Le Mont Blanc, il y a aussi un film de 21 minutes. Et le Paris-Brest aussi. Et après, il y a d'autres aventures qui sont plus à suivre au jour le jour, comme ça, que je partage sur les réseaux, que je partage en photo aussi, et que après je mets sur mon site internet qu'on peut retrouver. Par exemple, avec un ami qui s'appelle Charles, on est parti de Paris, et le but c'était de rejoindre le centre de la France à la boussole, à vélo.
Ok.
Et donc on est parti comme ça, et il y a une super appli qui s'appelle Dérive, d'ailleurs, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est vraiment génial. Je sais pas, il est là mon téléphone. Moi, je te montrerai après, là, parce que là, ça va pas être très parlant. Mais donc, c'est une appli où tu rentres ta destination, tu dis, voilà, je veux aller à Marseille. Et l'appli, en permanence, te met une flèche, grâce à la boussole du portable, vers Marseille. Donc, c'est un peu un azimut permanent. Et un nombre de kilomètres restants à vol d'oiseau. C'est les seules infos que tu as. Et donc, nous, on a rentré centre de la France. C'est dans l'Allier, ça s'appelle Nassigny. Et donc, on a fait comme ça, je sais plus, 245 ou 300, non, 340 kilomètres, je sais plus.
Okay.
Comme ça à la boussole. Donc en fait, t'arrives à chaque croisement de route. Tu dis, bon, bah là, à ton avis, vu la flèche, est-ce qu'on ferait mieux de prendre à droite ou à gauche? Parfois, tu dis, bon, allez, vas-y, on prend le champ, c'est pas grave, on verra. Et c'était vraiment très marrant parce que du coup, t'es beaucoup plus observateur de tout l'environnement. Tu vois, tu regardes de loin, tu fais, oh là là, là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une autoroute, donc on va pas pouvoir passer. Donc on va prendre plutôt à gauche maintenant. Là, le champ, il a l'air vraiment moisi. Et on a fait ça sur 3 jours. Et ça, c'est ça. Il n'y a pas de film de ça, mais c'était des petites photos. Puis on a raconté au fur et à mesure. Il y a la trace GPS pour ceux qui veulent le faire. Puis l'avantage.
Tu fais un peu zigzag du coup
ou... Ouais, en fait, pas tant que ça. Ça fait un peu comme ça, mais les routes sont assez bien faites. Et surtout, l'axe nord-sud en France, tu sais, les axes est-ouest-nord-sud, ils sont assez bien marqués. Puis surtout, assez vite, tu triches un peu avec les panneaux de ville. Tu te dis, bon, là, on voit que ça va par là. Autant qu'on prenne la route plutôt que de galérer pendant 6 heures sur un champ. Et ça, je le conseille à n'importe qui. Surtout, l'avantage, c'est que c'est pas du tout une aventure que pour les Parisiens. C'est que n'importe qui en France peut rejoindre le centre de la France et il sera toujours à moins de 513 km, je crois.
Ok.
Donc, n'importe qui peut le faire.
Ah, c'est excellent. Et alors, du coup, tu relates ces films, tu disais, sur les réseaux sociaux. Ils sont disponibles tout le temps ou il faut les acheter quelque part
Non, pour l'instant, ils sont disponibles tout le temps sur ma page YouTube. Alors, moi, j'ai pas changé de nom, c'est la page Jean-Baptiste Martinon. Mais en tapant Baba O'Run, on tombe sur toutes les vidéos. Parce que c'est dans le titre. Et voilà, aujourd'hui, si on regarde les vidéos, au début c'est très amateur. Après, la France des desserts en City Scout, je suis parti avec une équipe, un vidéaste, une photographe qui était dans un shopping car. Et c'est déjà une qualité quand même beaucoup plus pro. Et là, le but c'est de passer sur un peu moins de documentaires, de reportages, et de les faire vraiment, de les penser en amont, d'avoir une qualité de l'image, une qualité du son, une qualité de l'histoire aussi. Mais toujours avec cette part d'imprévu qui fait le croustillant à chaque fois. Tu verras, t'as pas vu le film La France des desserts?
Non.
Bah voilà, c'est, il y a pas mal de trucs marrants dedans parce que je suis parti avec mon truc, je sais pas trop où je vais, je suis suivi par un camping-car qui tombe dans un fossé à un moment.
OK.
Enfin donc c'est assez marrant, à un moment j'arrive, j'ai plus de batterie, on a mal calculé, j'ai plus de batterie. Donc non, c'est vraiment sympa et le but c'est ça, c'est de raconter de la meilleure manière possible aux gens qui aiment suivre ces histoires qui sont en fait des histoires du quotidien, des histoires à part le Mont Blanc où ça peut paraître un beau défi sportif, mais les autres franchement c'est des choses qu'on peut tous faire, de partir à vélo, faire 3 jours de vélo on peut le faire, Paris-Brest on peut le faire, voilà. Et donc l'idée c'est d'encourager les gens à faire ces choses là et de montrer qu'en fait il suffit d'y aller quoi.
Ouais. T'as une communauté aujourd'hui de Baba O'Runner, je sais pas si on dit ça, qui te suivent ou qui font la même chose avec toi?
Alors, pour les aventures Baba O'Run, j'ai ponctuellement des amis qui me rejoignent, ou mon frère, ou voilà, ou là, tu vois, j'aimerais bien faire un truc avec Benjamin Ferré, d'aller livrer quelque chose en bateau, une île flottante, ou j'ai pensé à l'aventure bateau basque.
Ok, ouais.
Et sinon, les Baba O'Runner, c'est bien que t'en parles, parce qu'il y a toute une autre partie du projet dont je t'ai pas encore parlé, mais qui est la partie solidaire. En fait, en faisant mes livraisons en courant, je me suis dit, tiens, il y a moyen d'embarquer du monde un peu là-dedans parce que les gens veulent courir, veulent participer. Et donc, j'ai créé une association qui s'appelle Les Bonnes Actions au Basket,
okay.
qui est pas Baba O'Run, hein, qui est à côté, mais qui est dans le même thème. Et le but, c'est de faire des maraudes en courant et donc d'aller récupérer les invendus des boulangeries partenaires. Il y en a 15 aujourd'hui. C'est d'ailleurs les boulangeries de Rodolphe Lendemain pour le Mont-Blanc. Et voilà, en fait, les gens peuvent aller courir, récupérer les invendus dans un sac à dos ou dans un sac comme celui-ci. Et en faisant leur footing, ils distribuent les 3 sandwichs et les 4 quiches qu'ils ont récupérés. Et donc, ça permet d'allier le sport, la solidarité, puis en plus d'éviter le gaspillage, parce que il y a beaucoup de produits qui sont jetés tous les soirs à cause des règles, des normes d'hygiène, tout ça. Et donc, c'est un petit cercle vertueux. Et le but, c'est que chacun puisse faire un peu sa part. Voilà. Et donc, ça ouais, il y a des baba runners. Là, en un an, il y a à peu près 200 personnes qui ont fait une baba, comme je l'appelle.
Ok.
J'avais fait un peu des interventions en entreprise où j'emmenais ensuite les gens faire une baba. Donc, c'était assez marrant de voir les gens en costume, puis les gens en tenue de sport qui savent pas trop, qui connaissent pas trop, pour qui les gens de la rue, c'est un peu. Ça fait peur ou ça. Voilà, où ça dégoûte. Et en fait, en le faisant, ils se disent, tiens, c'est génial, je suis venu, ça m'a pris une heure, j'ai distribué 10 repas, j'ai fait un peu de sport, j'ai vu mes collègues. Donc voilà, ça c'est l'association. Et ça, je la développe en parallèle, je fais un peu tout ça en parallèle.
Et petite parenthèse, une baba, petit clin d'œil avec la BA, Scout ou...
ouais. Ouais, bah, en fait, la BA au sens général, quoi, c'est une bonne action.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Et puis c'était un clin d'œil aussi à Baba Oren. Et c'est surtout que le mot maraude, il est terrible en fait. Marauder, ça veut dire traîner dans la nuit, être un peu un voleur et tout. Parce que les maraudes se font souvent de nuit et tout, mais je trouve qu'il ne correspond pas à ce qui se passe quand les gens font une maraude avec la Croix-Rouge. Le mot est trop méchant. Et une baba, c'est plus gentil.
Ouais, non, c'est d'accord. Ça rend la chose plus abordable. Hein.
C'est un chef d'entreprise avec qui je parlais qui me disait, tu peux pas garder le mot maraude. Moi, tu me dis une maraude, j'ai pas envie de faire une maraude. Donc, j'ai cherché un autre mot.
C'est quoi le business model, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Tu disais que c'était pas rentable de faire 10 courses dans la journée, ça fait 28 euros, je ne sais quoi. C'est quoi le business model du coup aujourd'hui?
Alors, c'est celui d'une petite agence de com. Voilà, en fait, moi, je réfléchis à des idées de projets. Que je propose à des marques en brand content. Donc il y a l'idée, puis il y a la réalisation. Et les marques, ce qu'elles récupèrent derrière, c'est un peu de visibilité sur mes réseaux et puis d'éventuels partenaires. C'est des couvertures presse quand il y en a. Et puis c'est surtout des vidéos et des images exploitables pour elles, pour animer leurs réseaux sociaux, pour animer leur newsletter, pour animer leur site internet. Et c'est aussi une manière de mettre en action leurs produits. De manière un peu originale, typiquement City Scoot, bah, ils ont prouvé que leur scooter peut rouler 1300 bornes sans aucun souci. Ils ont des photos de leur. Si tu appuies sur la touche espace de mon ordi, tu vas voir la photo. Ils ont une photo de leur scooter devant les vaches, dans les vaches des Landes, devant les vaches des Landes. Voilà, et puis c'est aussi une manière de changer. Moi, j'aime beaucoup prendre un produit et le sortir de son utilisation habituelle. Tu vois, voir un scooter électrique là, c'est complètement. Absurde, voir une pâtisserie au sommet du Mont Blanc, c'est plutôt une zone un peu hostile a priori, donc on n'en voit pas. Et voilà, et puis j'espère amener une banane à Split bientôt, tu vois.
Où ça ?
À Split.
À Split. Yes.
C'est dans le nom en fait, hein. Ah ouais. C'est vite cherché.
C'est clair, ah, c'est clair.
Et voilà.
Ok, donc des projets comme, t'en fais combien en parallèle ? Enfin, tu vois, je sais pas si t'en as, c'est un tous les X semaines ou est-ce que c'est trois par semaine ? C'est quoi
Si j'en fais un par mois, c'est bien.
Ok.
L'ordre d'idée, c'est plutôt ça. Là, j'en ai quelques-uns qui ont été annulés en fin d'année parce qu'en fait, ce qui est horrible, c'est qu'il y a non seulement les contraintes dues au couvre-feu, au confinement, mais en plus de ça, il y a l'impossibilité pour une marque de se projeter. Elle peut pas te dire, on le fait en mars ou on le fait en avril, là, on sait pas, tu vois. Donc ça, c'est très fatigant. Le coup. Et comme je fais un métier et une activité où je m'amuse et où je donne l'impression de m'amuser, et c'est le cas, tu vois, j'aime bien ce que je fais. Les gens pensent pas qu'à l'inverse, il y a aussi des coups durs c'est quand même, j'en ai besoin pour vivre et j'ai besoin de lancer des projets. Et là, avec l'année qui s'est passée, certes, je suis pas un restaurant ou je suis pas la première victime de tout ça, mais en tout cas, j'ai beaucoup de projets qui sont annulés ou qui sont reportés. Tu vois, typiquement aller dormir chez les gens en ce moment, c'est un peu c'est compliqué, donc ça veut dire toutes ces aventures là je peux pas trop les faire. Et donc ouais, le but, c'est d'en faire, pour revenir à ça, c'est d'en faire une par mois. Et là j'ai plusieurs projets qui sont très itinérants, qui sont un peu dans la veine de la France des desserts, et qui devraient arriver, je pense, pour le mois de mars. Et après, en termes de business model, le Le vrai sujet, c'est que tout ça, je le vois comme une phase de test. Tout ce que je fais en termes de vidéos et d'aventures. Et j'ai écrit un projet d'émission pour la télévision sur lequel je travaille depuis plus d'un an maintenant. C'était en septembre 2019 que j'ai commencé à écrire le projet. Là, il est abouti, il est ficelé et tout ça. Et je travaille avec une boîte de prod. Et là, le sujet, c'est de bien le formuler et de le vendre à une chaîne pour après commencer des tournages. Si tout va bien et si les dieux de l'aventure sont avec nous, j'espère en mai, juin, tu vois. Et donc l'idée, ce serait de passer vraiment sur ce métier-là qui est animateur-reporter.
Okay, c'est une mini-série avec des épisodes, du coup ?
Voilà, ouais. Mmh. Et qui sont toujours dans la même veine de ce qu'on a fait. De ce qu'on a fait, je dis « on », mais je suis tout seul de ce que j'ai fait jusqu'alors. Et donc, c'est de professionnaliser ça, c'est d'avoir une équipe qui m'accompagne sur l'aspect éditorial et contenu pour que les gens apprennent vraiment des choses. Moi, je trouve ça important. J'adore me distraire en apprenant des choses. Quand je lis les bouquins que je préfère, c'est les histoires vraies. Les films que je préfère, c'est les histoires vraies. Et les docus que j'adore regarder, c'est des trucs du vrai monde. Donc, tu vois, là, j'ai le bouquin d'Antoine de Maximy que j'ai lu, qui s'appelle « Avant d'aller dormir chez vous ».
Ouais.
Et je voulais comprendre comment est-ce qu'il était arrivé à faire ce truc-là. Parce que moi, à chaque fois que j'arrive chez les gens, on me dit « Ah, tu fais comme le gars de « Je viens dormir chez toi » et tout. » Et donc, je voulais comprendre un peu tout le cheminement. Et surtout, j'ai réalisé en lisant son bouquin le travail que c'est. On pourrait se dire, il part avec ses deux caméras. En fait, c'est un travail qui est phénoménal d'organisation. Et puis, mine de rien, le croustillant, ça va se chercher. Hein. Ça n'arrive pas tout seul. Dans la rue, pour avoir une interaction marrante... il faut être avenant, il faut être ouvert d'esprit, il faut être de bonne humeur aussi. Et donc ça s'apprend en fait, c'est vraiment un métier. Voilà.
Mais c'est une bonne transition. La question suivante, c'était par rapport à la structuration de l'équipe. Tu disais justement « on » en fait dans ces jeux. Tu parlais d'auto-entrepreneur au début. Toi, quand est-ce que tu penses migrer, sauf si c'est déjà le cas, vers un format dans lequel tu structures avec peut-être des stagiaires employés alternants et autres. Tu parlais typiquement de vidéastes et photographes qui t'ont accompagné. Est-ce que tu en as de prédilection qui sont partenaires sur certains sujets ?
Ouais, alors j'aime bien travailler avec mon frère qui est photographe de métier pour les sujets photo, avec Chloé et Gurkan qui m'ont accompagné sur la France des desserts, qui sont vanlifers et donc c'est assez pratique parce qu'ils vivent vraiment dans leur van, donc ils sont très mobiles. Donc vidéastes et photographes, eux. J'aimerais bien repartir avec eux là. Et donc non, je suis toujours tout seul tant que j'ai pas trouvé pile le bon axe pour en faire un métier sur plusieurs années, je reste comme ça et honnêtement c'est très pratique l'auto-entrepreneur. C'est pas du tout un statut de long terme parce que la retraite, parce que tu peux pas déduire tes charges, parce que c'est capé en chiffre d'affaires, mais en tout cas je trouve que c'est très bien pour démarrer, ça coûte rien et voilà. Et le but, moi, ce serait d'avoir un... Là, je te parlais d'émission. S'il y a une émission, soit je serais salarié de la chaîne ou de la boîte de prod. Donc, c'est quand même un statut un peu plus confortable. Donc, j'ai rien contre le salariat. Soit intermittent, un statut que je connais assez mal, mais qui est très bien pour, je crois, pour les auteurs, pour les réals aussi, je crois. Enfin, je n'ai pas encore cherché, mais en tout cas, c'est ce que m'a dit la boîte de prod. Donc, je pourrais changer de statut cette année, quoi.
Bah, ce serait bien, on te le souhaite, hein. On te le souhaite d'arriver à structurer.
Merci.
Qu'est-ce qui se passe, du coup, pendant les deux confinements, d'ailleurs, pour quelqu'un comme toi ?
Au début, pas grand-chose. Le troisième, il va arriver, il va falloir que je trouve une solution. Pendant le premier, j'étais pas mal chez moi, mais j'ai quand même fait deux OP assez sympas, qui étaient la première d'aller livrer des chocolats de Pâques aux grands-parents isolés. Ça, c'était avec Staff Me. Et c'était donc aller déposer caché devant chez les gens des chocolats Lindt avec une petite carte de leurs petits enfants que j'ai déposé moi-même. Et après, une fois que j'étais passé, un peu comme les cloches, les enfants appelaient les grands-parents, ils disaient va voir dehors, les cloches sont passées. Donc ça, c'était marrant. Et c'était quoi après pour le 1er mai, je suis allé livrer du muguet et un petit panier gourmand Fauchon en Solex dans Paris, toujours pareil aux grands-parents qui étaient un peu tout seuls depuis des mois. Donc ça, c'était sympa aussi. Et sinon j'étais confiné à la campagne en Sologne d'ailleurs, et je devais courir le marathon de Rome normalement le 28 mars, et donc j'ai décidé de le courir dans mon jardin. Tu verras, il y a une petite vidéo qui est assez marrante et où j'avais mes frères et sœurs qui étaient là au soutien et j'ai fait je sais plus combien 300 350 tours dans mon jardin. C'est ça, 351 tours.
Incroyable, en 4 heures. T'as parlé de performances de course que t'as découvertes grosso modo au lycée finalement. Tu disais que t'étais bien raté parce que t'étais en train de pisser au départ de ouais. suite seconde. Et depuis, c'est quoi comment t'as fait, comment tu constates ton évolution de performance?
Alors j'ai démarré par du coup. En fait, je suis pas du tout. Je suis très peu dans la performance de course. Il se trouve que je cours assez bien parce que j'ai beaucoup couru. En prépa, j'ai continué à courir. En école, j'ai couru. Mais tu vois, quand je vais courir, je vais souvent faire un 10 km là à Paris parce que j'aime bien le côté cadré. Mais sinon, j'ai jamais été en club, j'ai pas eu la structuration d'entraînement. Et je sais que j'ai progressé, mais je pense que par exemple, j'étais meilleur en course à la fin de la prépa qu'aujourd'hui. Et je courais plus avant qu'aujourd'hui avec Baba Run. Moi, c'est simple, c'est si j'ai pas envie de courir, je vais pas courir. Et si j'ai envie, j'y vais. Et j'ai souvent envie, mais. Mais j'ai pas du tout de truc où je vais courir toutes les semaines, 4 fois par semaine, tu vois, c'est pas du tout. Et en termes de course, j'ai vu l'évolution parce que j'ai commencé par des 10 km, j'en faisais beaucoup au lycée, après des 20 km. Après, je voulais faire un marathon absolument avant mes 18 ans. Je m'étais dit, tiens, c'est délire, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais. Et donc j'en ai fait un à Paris, juste avant mes 18 ans. J'étais très content. Et après du coup j'ai refait 2 fois Paris, puis j'ai fait d'autres marathons. J'ai fait un marathon que j'ai inventé, au-delà de celui dans mon jardin. J'ai fait le marathon de la Chantilly et je suis parti de la gare du Nord là à Paris et je suis allé jusqu'à Chantilly parce que j'avais vu que c'était à 42 km de Paris, donc je m'étais dit bah tiens vas-y.
Excellent.
Et donc je suis arrivé à Chantilly, j'ai mangé de la Chantilly, puis je suis rentré.
Ah, j'allais dire, t'aurais pu en livrer avec ton sac.
Ouais, mais en fait, 42 km, et en plus c'était en été, ça aurait pas tenu.
Ouais.
Donc voilà, et après sinon, j'ai fait avec un super copain qui s'appelle Edouard et un autre qui s'appelle Charles, on a fait pas mal de courses, notamment la Saint-Élion, qui est une course vraiment très très bien pour commencer le trail format grande distance. C'était 72 km de nuit. Et c'est une vraie. En fait, chaque course c'est un peu une aventure. Tu sais pas ce qui va se passer. Quoi.
Et donc là, les 351 tours, tu penses que t'as fait une belle performance ou le but c'était plutôt de finir les 4 heures
J'ai fait. Je sais que j'ai fait un marathon c'était 3h57. En soi, je sais que c'est un temps qui est très correct que beaucoup de gens aimeraient obtenir. Mais c'était pas ce que je cherchais là-dedans. C'était aussi que quand tu cours, tu m'as dit que tu t'es mis à courir. Courir à un rythme qui n'est pas le sien, c'est compliqué, que ce soit pour un rythme plus rapide ou plus lent. Et moi, mon rythme, il est relativement rapide. Donc en fait, j'avais aucune raison de me dire, tiens, comme c'est dans un jardin, je vais le faire lentement. Enfin, en fait, plus vite tu cours, plus vite tu finis aussi. Et plus vite tu bois un coup ou tu déjeunes, tu vois. Donc voilà, c'était ça le but.
Bon, bah, c'est top. Qu'est-ce qui t'attend du coup là? C'est quoi les prochaines étapes sur les prochains mois à venir?
Alors je sais jamais trop ce qui m'attend. En fait j'ai pas mal d'idées en tête. J'ai discuté avec une pâtissière qui s'appelle Nina Métayer, qui a été pâtissière de l'année, qui est une super pâtissière que j'aime beaucoup. On réfléchit à un potentiel projet de créer des babas au rhum en bocaux, qui serait facile à livrer du coup, où il n'y a pas de perte et tout ça. Donc ça, c'est un projet, je dirais, plus au long cours, on verra ce qui se passe. Et après, en termes de... Là, j'ai quelques aventures que j'aimerais bien programmer. Je vais les garder dans ma tête pour l'instant, mais qui devraient arriver, j'espère, en mars, en fait. Et puis sinon, pas mal de sport. J'ai un gros projet aussi en course à pied, donc un gros défi sportif. Sur pas mal de temps, ça ce serait pour l'automne et je l'annonce pas parce que ça se trouve ça se fera pas et puis surtout je suis loin de savoir comment je vais pouvoir le faire et voilà. Et après il y a toujours ce projet d'émission, j'espère que ça va se faire. J'écris aussi pas mal le projet d'émission de chronique beaucoup axé sur la micro-aventure et sur là je pense que le Covid il a fait un bien fou sur le côté simplicité de la vie et en fait il y a plein de gens qui rêveraient pendant le confinement d'être juste au bord d'un feu avec une merguez sous les étoiles et à chanter avec une guitare c'est cet esprit là que moi je vais essayer de mettre en avant et surtout c'est bête mais ça correspond un peu aussi à ce qui peut être produit en termes d'image en ce moment parce qu'on peut pas partir en Indonésie filmer une fête sur la plage tu vois. beaucoup de mon travail, c'est d'être à mon bureau, de regarder un peu dans tous les sens ce qui se fait, ce qui se fait pas, et d'écrire des projets d'émissions. En fait. Et après, de trouver des partenaires aussi. J'en ai pas parlé là, mais je crois que tu as interviewé Tordeur, Mathieu. Et bah lui, c'est franchement pas mal grâce à lui qu'aujourd'hui je fais ça, parce que je l'ai vu quand j'étais en première année d'école, donc en 2015. Et j'avais pris un verre avec lui parce qu'on avait une pote en commun. Et en fait, il avait cette simplicité de dire bah, je suis étudiant en Sciences Po, mais là, je crois que dans un mois, je vais aller pédaler pendant un mois sur la plus haute route du monde. Et en fait, il le disait avec une simplicité qui était celle de bah, tu pourrais le faire aussi. Et je me suis dit, mais ouais, mais pourquoi je le fais pas? Et de là, je me suis dit, bah, il y a pas grand chose qui nous empêche de faire les choses, si ce n'est notre flemme ou une fausse barrière. Et quand j'ai vu que lui, au fur et à mesure, j'ai un peu suivi son parcours, alors on est devenus copains, parce qu'on avait fait notamment des livraisons ensemble de son bouquin, en deux chevaux. Et voilà, je me suis dit, mais c'est juste très simple, et tu partages tes passions, et il faut trouver un bon moyen de le partager pour en vivre, parce que si tu les vis, si tu vas juste courir, ou si tu vas juste traverser, rejoindre le pôle sud, et que tu prends pas d'image, que tu t'écris mal, et que tu parles mal, bon bah l'aventure elle va rester pour toi. Donc il faut trouver un bon moyen de le partager. Et voilà, et après tu te rends compte que c'est un petit monde. Bah, je vois tous les gens que tu as interviewé, il y en a beaucoup qui m'inspirent dedans, il y en a beaucoup aussi que j'ai hâte de découvrir parce qu'il y a des trucs un peu plus niche, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu as du kite, non, du canoë. Enfin, voilà, je vais écouter ça aussi. Et voilà, et lui m'a fait dire au départ bah fonce en fait, fonce tu, et puis surtout maintenant à 25, 26, 20, même 30 ans, t'as pas grand-chose. Une fois que tu as des enfants, je pense que c'est un peu plus compliqué, même si tu peux toujours partir un peu sur des projets originaux.
Qu'est-ce qu'elle en pense d'ailleurs? Tu parlais tout à l'heure d'acheter un appartement avec ta copine. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ce que tu fais?
Alors, ça a un peu évolué au début. Au début, elle se disait, oh là là, qu'est-ce que c'est? Il y a un peu le côté, c'est sur Instagram, il y a le côté personnage un peu public, tout ça. Et en fait, elle a compris que c'était un outil de partager, et en fait, qu'il y a besoin, puisque le business model, en fait, c'est... il faut que des gens suivent les aventures pour que des partenaires veuillent rejoindre et puissent financer et que ce trio gagnant fonctionne. Et donc elle a compris ça, je pense qu'elle est complètement emballée par le projet, et surtout elle sait aussi que ça me correspond et que je suis à ma place aujourd'hui. Elle, tu vois, elle a fait les sacs aussi, elle monte son épicerie traiteur, donc elle est aussi en plein dans sa passion, qui est pas le chemin a priori le plus tracé. Et donc, en fait, on sait qu'on est chacun à notre place et que c'est pas le choix le plus facile, ça c'est sûr, mais que ça rend heureux de pouvoir aussi s'encourager là-dedans. Si elle était dans un job ultra classique, voilà, je pense que ce serait peut-être un peu plus compliqué. Surtout que bah, d'un côté, tu as les horaires, le cadre et la sécurité, et de l'autre, moi, il n'y a pas la sécurité, mais il y a le côté un peu excitant. Voilà. Et donc, le fait qu'on soit chacun à notre place, c'est... Bon, je crois qu'elle est à fond aujourd'hui. Je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais en tout cas, j'espère que je ne dis pas de bêtises.
Elle t'en a déjà tellement parlé.
Ouais, elle n'en peut plus. Je fais déjà trop de bruit.
Bon, mais c'est top. Qu'est-ce qui ferait que tu vois, tu parlais tout à l'heure de... J'ai choisi de ne pas être dans le confort de certains de tes camarades de promo d'ESSEC. C'est quoi la crainte principale qui ferait que potentiellement tu retournerais justement sur ce confort-là avec ton diplôme?
Là, aujourd'hui, il va falloir un peu de temps avant que... Enfin, j'ai rien contre le salariat, rien que les entreprises. Si je retourne en entreprise, c'est parce que j'ai trouvé un patron ou un manager qui est capable de te faire grandir et de t'apprendre des choses. Ça, moi, j'aimerais bien, parce que je trouve que c'est une vraie chance d'aller au boulot tous les matins et d'avoir quelqu'un de plus fort que soi qui nous apprend des choses. Mais là, en fait, j'ai des choses à tester et surtout, j'ai pas envie de lâcher alors que je sens que ça peut prendre et je sens que ça prend déjà un peu. On verra. Plus tard, ça se trouve, je suis aussi passionné par l'hôtellerie et j'ai bossé un peu dedans avant. Ça se trouve, je serai directeur d'un hôtel ou pas directeur d'ailleurs, ou responsable, je sais pas, du food and beverage ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est possible. J'aurai une autre vie. On rêve avec mon frère et mon père d'ouvrir une pizzeria. Je pense qu'on le fera, et dans ce cas ce sera une toute autre vie. Bon, tu me diras, c'est toujours pas de la sécurité du salariat. C'est vrai que je réponds pas à ta question. Si tu veux savoir si je serai lundi prochain à la Défense chez KPMG, la réponse est non. Mais c'est parce que c'est pas ma place là-bas. Et d'ailleurs, j'étais en entreprise avant, une boîte qui s'appelle la compagnie de Felsbourg, que j'ai adoré. J'ai fait mon apprentissage là-bas pour financer mes études et puis pour apprendre des choses aussi. Et j'avais eu un rendez-vous avec la DRH et qui m'avait dit Jean-Baptiste, t'es très sympa et tout, tu chantonnes dans les couloirs. Mais par contre, c'est pas possible de mettre une heure tous les matins à aller dire bonjour à tous les collègues. Et moi, j'avais dit, bah, c'est quand même poli, c'est sympa et tout. Et en fait, j'étais un peu ce petit fanfaron qui prenait plaisir à aller voir les gens. Et je pense que les gens m'aimaient bien, mais j'étais pas le plus efficace pour le travail qu'on me demandait. Et donc, c'est là que j'ai compris que c'était peut-être pas ma place.
Comment tu structures derrière ta journée, là, toi qui disais que t'as l'occasion, typiquement, à la fin de ce podcast, d'aller courir, de faire un peu de content writing quand on a envie, quoi. Comment tu structures ta semaine du coup?
Bah assez mal en fait, vraiment assez mal. Ça tu coupes? Non, bah non, mais je fais un peu au fil de l'eau, j'avoue. J'essaie de m'astreindre à un certain nombre d'heures de travail, parce que non pas parce qu'il le faut, mais parce que j'ai remarqué que si je passe 4 heures à mon bureau, il y aura peut-être une heure qui sera efficace dessus.
Okay.
Que les idées, pour que je les ai, il faut que je regarde des choses, que je regarde des vidéos, que je lise des choses. Que
je suis inspiré, quoi. Ouais.
Tu vois, j'étais en Sologne pour Noël et en étant comme ça dans le salon, je tombe sur un jeu, le 1000 bornes. Tu vois, je me dis, mais voilà, en fait, c'est évident. Il faut que j'aille faire 1000 bornes. À vélo ou à scooter, et que je dorme chez les gens le soir et qu'on joue aux 1000 bornes tous les soirs, tu vois, et que je devienne un pro du 1000 bornes. Et donc en fait, tu sais jamais trop quand va venir l'idée. Donc à la fois je bosse, j'adore ce que je fais quand je bosse, et en même temps, même quand je bosse pas, je peux très bien avoir, tu vois, bah là quand tu m'as écrit, est-ce que ça fait partie de mon boulot ou pas de répondre à ce podcast, je pense que oui, et pourtant j'étais en vacances et ça tombe un peu de nulle part, et voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'horaire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je bosse beaucoup, en vrai. Mais voilà, sur des formats un peu... C'est pas 10 heures de boulot d'affilée. Ça peut être... je peux aller déjeuner pendant 2 heures avec mon frère, puis aller courir, et le soir, je vais rebosser, puis après, je vais aller faire une baba, et puis après, je vais dîner. Enfin, en fait, c'est complètement des... Et puis après, quand je pars à l'aventure, là, pour le coup, c'est 3, 5, 10 jours d'aventure non-stop. Donc, en fait, c'est du boulot non-stop. Mais bon, le sujet un peu, c'est que les gens ont du mal à comprendre que c'est un boulot. Mais je pense qu'on n'a pas trop de mal à dire qu'un acteur qui tourne un film, c'est son boulot, ou qu'un comédien qui joue une pièce de théâtre, c'est son boulot, alors qu'en fait, sur le papier, ils ont l'air de s'éclater. Mais ce qu'on voit rarement, c'est tout le boulot qu'il y a derrière, pour structurer, pour financer, pour organiser. Voilà, c'est ça le... C'est pour ça que c'est bien d'avoir un peu les podcasts, c'est de se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Bah, d'ailleurs, j'écoutais tout à l'heure ton podcast sur... Comment il s'appelle, le Tanner, non? Le Tanier?
Hugues Le Tanier. Qui a traversé en kayak, ouais.
Et bah, il disait que quand tu lis les romans d'aventure, tu vois que le résultat fini, mais tu vois pas les 28 ans de galère avant, tu vois pas. Tu l'oublies, ça, parce qu'en fait, le but même du bouquin, c'est de dire, voilà, j'ai réussi et je suis allé au sommet de l'Everest et c'était génial, ça. Et en fait, il y a de plus en plus de bouquins qui te disent, voilà pourquoi j'ai galéré. Mais donc je trouve ça intéressant de pouvoir le dire aussi, et surtout de montrer que déjà ce format de vie et de boulot, il correspond pas du tout à tout le monde, et si ça te correspond, tu le sais parce que tu le fais sans te poser de questions. Et je vois pas mal de gens, et tu dois en avoir, je pense, qu'ils doivent t'écrire peut-être sur le podcast ou qui t'échangent, qui te disent, ah non, mais moi ça me fait rêver, une vie à la Mathieu Tordeur, c'est trop ouf, quoi, c'est génial et tout. En fait, c'est lui qui a créé son métier, et c'est lui. Si tu le faisais, tu le ferais pas bien, et tu pourrais essayer d'aller au pôle sud, ça se trouve tu te ferais royalement chier au bout de 2 jours. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et donc pareil, au moins il y a des gens qui me disent, je vais être livreur en courant. Je dis, bah, si t'es pas passionné de course à pied et que t'as pas envie d'aller chez les gens, fais pas ça, fais autre chose. Donc voilà, le but, c'est vraiment de chacun être chez soi. Et tu disais tout à l'heure le confort, je reviendrai à un texte que j'adore et qu'on devait souvent réciter, qu'on avait appris à Saint-Cyr au lycée, et c'était le texte Être jeune, et qui disait que la jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, une qualité de l'imagination, une intensité émotive et une victoire du courage sur la timidité et du goût de l'aventure sur l'amour du confort. Et en fait, cette phrase, moi je l'ai même dit, tu vois, j'ai même dit au mariage de ma maman, parce que je considère qu'il y a des gens qui respirent la jeunesse et qui ont 65 ans. C'est vraiment pas une question d'âge, il est jamais trop tard pour quoi que ce soit. Au festival Chiloé, il y avait Yann Arthus-Bertrand, et il a, je sais pas quel âge il a un certain âge, Mais honnêtement, il fait très jeune dans ses remarques, dans son humour, dans sa pêche. Et je me suis dit, bah, ce gars-là, oui, il est jeune, il est vif, il est heureux. Et d'ailleurs, je regardais encore une vidéo de lui tout à l'heure, il disait, par pitié, le respect pour la vie, c'est de se lever tous les matins et te dire, est-ce que je suis heureux ou pas? Et si tu ne l'es pas, change. Change et cherche, en tout cas. Cherche et essaie de trouver un chemin sur lequel tu es le plus heureux.
Ouais, complètement. Écoute, si tu devais rencontrer quelqu'un qui a envie de monter un projet un peu comme le tien, c'est quoi, selon toi, les étapes à lui conseiller, du coup?
Déjà, c'est de foncer, de tester, foncer, et de se poser vraiment la question s'il y a quelque chose à perdre à le faire ou pas, parce que je pense que très souvent, il n'y a rien à perdre. Et des gens qui me disent « Ouais, mon patron est un tyran, mon manager, j'en peux plus et tout ça. Bon, » j'en ai là-bas part. Ils vont me dire « Non, mais tu comprends, faut que je gagne 2500 par mois, sinon quoi ?» En fait, ces trucs-là, c'est qu'est-ce que tu vas perdre vraiment et surtout qu'est-ce que tu vas gagner. Là, il y a une amie d'amis qui quitte son taf dans le conseil pour aller être vendeuse dans une épicerie. Alors tu me diras, c'est un peu le schéma classique de j'ai fait un opposé, donc je fais le tout autre opposé, mais au moins, elle aura essayé et j'ai envie de dire, si ça lui plaît pas, dans 6 mois, elle retourne en conseil et elle aura eu ce petit truc de se dire, bah, j'ai pas le regret de pas avoir essayé. Donc foncez, le conseil, c'est celui que mon père, il est très comme ça, il dit, fonce, tu vois. Je lui ai envoyé, il m'a offert le bouquin de Guirec Soudé à Noël, et je lui dis, tiens, c'est marrant, ça me donne envie de traverser l'Atlantique. Je lui ai écrit ça par message, et il me dit, bah, il te manque plus que la poule. Donc je lui envoie une photo de ma copine et il me fait ah bah non, du coup il te manque plus que le bateau. et tu vois, c'est son état d'esprit quoi, il y a rien qui t'arrête, pourquoi t'y vas pas? Et effectivement, c'est vrai qu'il faut foncer
complètement. T'as vu que Guirec d'ailleurs est en train de traverser la
ouais bah je ah suis là. Il me fait délirer là. il poste pas assez, du coup on suit tous les 5 jours, mais
c'est ça.
Mais ouais, il est, enfin, lui et Antoine de Maximi, j'ai adoré leur manière de faire. Nous, on nous apprend à d'abord gagner de l'argent et après savoir ce que tu veux en faire. Eux, ils réfléchissent d'abord à ce qu'ils veulent faire et après, ils trouvent le moyen de le faire. Et je trouve que c'est génial comme truc. Maximi, dans une interview, il disait, on lui demande s'il est riche et il dit, bah, ça dépend ce que vous appelez être riche. C'est soit vous avez plus d'argent que ce dont vous avez besoin, soit vous dépensez moins que ce que vous possédez. Et lui dit, moi je suis plutôt dans la même catégorie, je n'ai pas grand chose, mais du coup je dépense moins et je vais très bien. Et puis j'ai tout mon temps pour moi. Et donc Guirec, il m'a impressionné, il débarque, il a 21 ans, il débarque à Saint-Barth, il n'a pas un rond, mais vraiment, je crois que on parle de 8 euros. Et le mouillage est à 80 euros la nuit, et du coup il négocie, il devient prof de surf et tout ça. Et je pense que ça, c'est au-delà de l'aspect financier, économique, de savoir se débrouiller, c'est une vraie arme pour la vie, de savoir qu'à chaque situation, il y a une solution. Et donc voilà, tu vois, même là en Guadeloupe, moi je suis parti, on avait pris une zéro voiture parce que c'était hyper cher, zéro hôtel parce que c'était hyper cher, tout le monde est allé aux Antilles à Noël là. Et en fait finalement on s'est super bien débrouillé, on s'est retrouvé à dormir chez des Guadeloupéens, on a rigolé comme jamais, on a fait du stop, on a rencontré un armurier qui habite en Normandie, il nous a invité à venir voir ses armes après, on a rencontré un Guadeloupéen qui avait perdu un œil. Enfin tu vois, plein de trucs comme ça, et c'est ça qui fait des souvenirs. C'est pas le taxi que t'auras pris de l'aéroport jusqu'à ton Airbnb, et c'est pas le Airbnb aseptisé que t'auras loué, tu vois. Donc c'est une double chance.
Et complètement, je suis tout à fait d'accord. En plus je pense que c'est un format de vacances quand t'improvises qui est quand même aussi fun dans le ressenti de l'adrénaline, de dire bon c'est quoi la suite quoi.
Ouais.
Et sans le savoir en fait c'est encore plus excitant, tu vois, haletant que de savoir tout prévu et le planning. Pour moi, on s'en est assez aligné, je pense, sur le format de.
Ouais, en fait, tu pars du principe que t'attends rien, ouais. Et il peut que se passer des choses, parfois mauvaises. Les premières vacances qu'on avait fait avec ma copine, c'était. On était partis, on a dormi tous les soirs sous la tente. Et le dernier soir, on pose notre tente, et il y a des mecs qui passent à côté de la tente et qui cassent des tessons de verre, et qui commencent à être bourrés. On se dit, oh là là, bah, c'est bon, on est mort, donc on s'en va et on dort dans la voiture. Et le lendemain, elle me dit, tu sais, c'était l'horreur pour moi tout ça, l'attente et tout ça. Et aujourd'hui, elle a compris que bah, là, c'était une mauvaise expérience. Mais si ça se trouve, on aurait pu, 200 mètres plus loin, tomber sur la villa de rêve avec vue sur toute la Toscane. Et en fait, se faire un souvenir qui est merveilleux pour la vie. Là, on a un mauvais souvenir, mais on en rigole aujourd'hui. Donc, qu'il soit mauvais ou bon, le souvenir, il est précieux.
Toujours à prendre.
Ouais.
Si, tiens, pour terminer l'échange, si tu avais l'occasion de toucher un mot à Jean-Baptiste qui arrive à Saint-Cyr, qui ne connaît pas encore la course du coup, et donc il n'a pas encore tous ses idées de projet qui
derrière. Tu veux dire le Jean-Baptiste qui prendrait le départ comme tout le monde?
C'est ça.
Lors du cross.
Qu'est-ce que tu lui dis?
Continue de te balader le nez au vent et de voir ce qui t'attire et de c'est saisir les opportunités aussi quand elles sont là. Le train il passe pas deux fois en général et faut être capable d'aller vite et de dire ok bah je teste et j'y vais. Donc c'est un peu ce que j'ai toujours fait et si ça se trouve honnêtement j'aurais pu me mettre, j'ai fait du rugby aussi, ça se trouve ça aurait été le rugby, puis je me serais blessé, puis j'aurais fait de la guitare à fond et j'aurais voulu devenir chanteur, d'ailleurs je veux devenir chanteur mais enfin tu vois c'est, ça aurait pu être toute notre vie, c'est juste fonce, chope les opportunités et ne regrette rien surtout parce que, ah oui, aussi un truc que je me dis souvent, c'est quand je vois quelqu'un qui a pas l'air bien dans son job, je me dis est-ce que s'il lui arrivait un drame demain familial ou dans sa vie ou qu'il perdait une jambe ou je sais pas quoi, est-ce qu'il changerait quelque chose à son quotidien sachant que bah du coup la vie a complètement changé et voilà, et moi aujourd'hui la réponse c'est non, je changerai pas de job demain si j'avais un drame dans ma famille parce que je sais que c'est là-dedans que je peux mettre mon énergie à fond. Donc voilà, c'est savoir un peu est-ce qu'on est à notre place.
Merci en tout cas Jean-Baptiste pour ton accueil. J'étais ravi de cette
rencontre. Avec plaisir. Je vais te remettre un petit rhum pour, pour finir correctement.
Avec plaisir.
Il est midi. Hein. Parce que, faut préciser. En Guadeloupe, préciser. Avant midi, ça s'appelle un décollage. Là, c'est pas vraiment un décollage puisqu'il est plus de midi.
Merci pour ton temps Jean-Baptiste et puis à très bientôt.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.